Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série très importante qui concerne l'importance de la rédemption. L'importance de la rédemption. Ce matin, nous sommes à l'étude numéro 7. Et le titre, c'est Israël, sa chute et ses errements. Peuple de l'Alliance, peuple de Dieu, selon Amos, chapitre 3, verset 2, et le psaume 147, versets 19 et 20. Israël a été mis à part, et cela dans le but de répandre le message du salut parmi tous les peuples du monde. À ce double but de sa vocation correspond la direction divine de son histoire. Premièrement, nous avons l'éducation d'Israël. La préparation divine à la séparation de 1900 à 586 avant Christ. Quitte ta patrie et ta famille. Donc, l'histoire d'Israël commence avec cet ordre de Dieu à Abraham. Quitte ta patrie et ta famille. Tel est le début de la mise à part d'Israël, comme aussi de toutes les voies de Dieu au long des siècles, afin d'accentuer sa séparation et, en plus, de fortifier son caractère national. Quatre choses. On peut dire vraiment des choses principales, rendent témoignage à cette éducation du peuple. La loi en tant que barrière, selon Éphésiens chapitre 2, verset 14, et psaume 147, verset 19 et 20, le judaïsme palestinien, l'Ancien Testament hébreu et le temps de Jérusalem. Mais après un millénaire et demi, un changement profond intervint. Dès lors, tout, pendant des siècles, sera dirigé dans le sens de la dispersion ou par l'éparpillement d'Israël parmi les nations. Le point tournant en est la captivité à Babylone de 606 à 536 avant Christ. À partir de la captivité babylonienne en 606 ou 586, nous trouvons à côté du judaïsme palestinien le judaïsme de la dispersion ou diaspora. Jacques, chapitre 1, verset 1 et Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 5 à 11. À côté du temple, les synagogues consacrées à l'enseignement plutôt qu'au sacrifice et présentes, elles sont présentes dans toutes les villes ou pays comme de nouveaux centres de vie juive. À côté de l'Ancien Testament hébreu, nous avons la traduction grecque dite des Septante, apte à porter la loi, les prophètes et les psaumes mélodieux de David, non plus aux seuls juifs de la dispersion, mais encore aux gentils, donc aux non-juifs. On ne saurait exagérer le pouvoir centralisateur du judaïsme palestinien du temps et de l'Ancien Testament hébreu. Les innombrables communautés juives dispersées dans le monde païen, ils avaient ainsi leur centre de gravité. Tandis que par ailleurs, la diaspora avec la synagogue et la version des Septante, représentait de très puissants facteurs de dispersion et d'expansion active. De cette façon, Israël pouvait devenir un messager de Dieu, un missionnaire auprès du monde païen. Mais en fait, qu'arriva-t-il? Eh bien, deuxièmement, nous avons la chute d'Israël. En effet, voyez-vous, entre le moment où la loi lui fut donnée et la captivité à Babylone, eh bien, entre ce moment-là, Israël a eu pour péché principal l'idolâtrie, malheureusement. Et là, vous en avez la preuve par Exode chapitre 32, le livre des Juges chapitre 2 verset 17, chapitre 10 verset 6, 1 Roi chapitre 11 verset 5, 2 Rois chapitre 16 verset 3 à 4, et ajoutez encore Ézéchiel chapitre 8. Tout cela pour démontrer le péché principal qui était l'idolâtrie. Alors même que Dieu dirigeait toute son éducation dans le sens d'une séparation et d'une mise à part, Israël se maintenait en rapport et en communion avec les peuples de la terre, même sur le plan politique. Ésaïe chapitre 39 et Osée chapitre 7 verset 11. À l'exclusivisme divin, il opposait l'incluvisisme charnel, on peut bien le dire, et je le répète pour que ce soit bien dit d'une façon correcte en français, puisque je suis de langue allemande, malheureusement. Donc, à l'exclusivisme divin, il opposait l'inclusivisme charnel et à la force centripète, eh bien, il opposait la force centrifuge. À l'amour sanctifié, il opposait le libertinage, un libertinage impie, il faut bien le dire. Et là, de nouveau, les preuves, Ézéchiel 16, verset 23, Osée chapitre 1 et le chapitre 2 et le chapitre 3, toujours de Osée, et ajouter encore Ésaïe chapitre 1 verset 21. Aussi, après des siècles de patience, on peut bien le dire que la colère de Dieu est venue sur la Jérusalem coupable. Dieu a dit, cette ville excite ma colère et ma fureur. Et cela depuis le jour où on l'a bâti jusqu'à ce jour. Ou si je veux l'ôter de ma face. Jérémie, chapitre 32, verset 31. Nebuchadnezzar arrive et Jérusalem fut détruite et le royaume de Juda fut amené en captivité en 586 avant Christ. Alors se produisit le miracle juif. En Babylone, Israël fut enfin guéri guérit de Babylone. C'est cette Babylone, la mère de toutes les impudicités et idolâtries, selon Die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 17, verset 5, qui, on peut dire, allait devenir, en quelque sorte, le lieu de guérison du peuple débauché. Un peuple débauché. Un peuple qui savait plus tellement bien ce qui est bien et ce qui était mal. Dans cette ville de toutes les abominations de la terre, la nation juive a été libérée de l'idolâtrie babylonienne. Alors le reste fidèle d'Israël a pu revenir de la captivité en 1538 avec des responsabilités nouvelles et de nouvelles aspirations. Depuis la captivité babylonienne en 1538, eh bien tous les chemins et les plans de Dieu pour Israël convergèrent et servirent à le préparer à sa mission parmi les nations. Mais que a fait ce peuple? Méprisant les gentils, ce qui veut dire les non-juifs, les méprisant comme impurs, il se referma sur lui-même et une arrogante exaltation de soi-même, un état d'esprit qui a atteint son plus haut degré sous la conduite des pharisiens. Pharisien veut dire séparé. Le mot pharisien dérive de l'hébreu parash, qui signifie séparé, fermé. Il mettait donc l'accent, d'une manière toute charnelle, sur leur place privilégiée de peuple mis à part. À l'inverse de son attitude première, Israël opposait maintenant à l'universalisme selon Dieu, un nationalisme orgueilleux, à l'association mondiale, la coupure d'avec le monde et à sa mission auprès des peuples, la centralisation de son peuple. Ainsi de même qu'il avait pratiqué l'association lorsque Dieu souhaitait la séparation, et bien maintenant que Dieu voulait l'association, il cultivait la séparation, donnant ainsi raison aux paroles d'Étienne qui sont écrites dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit et à celle du psalmiste. N'oublions pas le chapitre 95, le psaume 95, verset 10, qui nous dit que c'est un peuple dont le cœur est égaré et ils ne connaissent pas mes voies. Au temps du Christ, Israël a atteint le point culminant de son péché. Ils ont rejeté tout d'abord le message du royaume des cieux, Saint Matthieu 23, verset 37. Ils se sont rendus coupables du meurtre du Messie à Golgotha, Actes chapitre 7, verset 52. Tout cela afin ils ont refusé le témoignage de la résurrection, Actes chapitre 4, versets 2 et 3, et vous pouvez ajouter Actes chapitre 7, versets 51 et 58, ainsi que le chapitre 13, toujours de Actes des Apôtres, chapitre 46, et ajoutez encore le chapitre 28, versets 25 à 28. Donc, en rejetant, ayant rejeté le Fils de Dieu, Israël a commis le péché de tous les péchés, et depuis lors, il est et il se trouve sous le jugement de Dieu. Troisièmement, nous avons la décadence d'Israël. Trois grandes étapes marquent la décadence d'Israël. De Moïse à Samuel, de 1500 à 1100 avant Jésus-Christ, né au Sinaï en qualité de nation, la descendance d'Abraham avait Dieu lui-même comme roi. C'était ainsi quelque chose que Yahvé l'Éternel avait et aurait désiré. Vous m'appartiendrez, et oui, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ça, c'était vraiment merveilleux. Exode, chapitre 19, versets 5 et 6, et notez encore le chapitre 15, versets 17 et 18, comme comparaison. Moïse, Josué et les 14 juges qui lui succédèrent, tels que Samuel y compris, ils ne furent rien d'autre que des mandataires qui ont été désignés par Dieu, et cela pour un temps plus ou moins long, en vue de tâches individuelles bien précises, et après quoi, ils pouvaient même parfois rentrer dans la vie privée. Notez le livre des Juges, chapitre 8, versets 29 à 32. Il n'y avait pas de loyauté terrestre. Gédéon l'affirme, et cela avec précision, dans le livre des Juges, chapitre 8, verset 23. Le roi céleste avait pour terrestre instrument. Il avait des prophètes, selon Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Il avait, le roi céleste, également des prêtres, selon Deutéronome, chapitre 33, versets 8 à 11, il avait des juges, sauveurs ou porteurs de salut. Ces juges étaient donc des porteurs de salut. Et on en a la preuve dans Juges, chapitre 3, verset 9. De plus, le rôle de conducteur du peuple ne reposait ni sur un titre légal extérieur, tel que par exemple le conférerait la naissance, Juges chapitre 11 verset 1, ni sur un vote ou une position sociale, mais sur le seul appel intérieur de Dieu, Juges chapitre 2 verset 16. Ainsi que le chapitre 3, verset 15. Il n'y avait donc nul gouvernement central externe, mais bien plutôt, il y avait un autel central. L'unité du peuple résidait dans son ascendance et dans sa foi. Le tabernacle à Silo, en tant que centre de l'adoration publique de Dieu, était l'expression visible de cette unité. Josué, chapitre 18, verset 1, le verset 10, et encore chapitre 19, toujours de Josué, verset 51, et ajouté 1 Samuel, chapitre 1, verset 3, et le chapitre 4, verset 3. Toute cette constitution était cependant trop mauvaise, parce que elle semblait trop bonne. Elle aurait pu porter du fruit que au sein d'un peuple qui aurait été entièrement dévoué à Dieu. Mais ce n'était pas le cas. Sans cela, elle ne pouvait être en quelque sorte que un système sans roi. Et c'est exactement ce qu'il est advenu d'Israël, selon Juges, chapitre 18, verset 1, chapitre 19, verset 1, et le chapitre 21, verset 25. De là, finalement, le désir d'un roi visible avait donc lieu. 1 Samuel, chapitre 8. Ils ont désiré un roi visible. Yahvé l'Éternel ne leur suffisait plus. De Saül à Sédécias, dans les années 1000 à 586, Dieu ne répondit à leur requête qu'avec une réelle répugnance. Car sous l'angle du royaume de Dieu, un royaume terrestre ne pouvait constituer qu'un pas en arrière. En fait, c'était un rejet de Yahvé. 1 Samuel, chapitre 8, verset 7. Dieu tenait néanmoins à ses droits royaux. Des siècles plus tard, les prophètes et les psalmistes le louaient encore comme étant le vrai roi d'Israël. L'Éternel est notre juge, oui, l'Éternel est notre législateur. L'Éternel est également notre roi. Ésaïe, chapitre 33, verset 22. Et notez aussi Ésaïe, chapitre 6, verset 5, chapitre 43, verset 15, et Jérémie, chapitre 10, verset 10, et le psaume, chapitre 2, verset 6. De là, la position si particulière des rois d'Israël. Yahvé étant le roi effectif, les rois terrestres ne sont en réalité que des vice-rois, une dynastie de gouverneurs héréditaires ayant le titre de roi. C'est aussi pour cela que leur choix ne fut pas une élection démocratique, mais bien plutôt une désignation reposant entièrement entre les mains de Dieu. Deutéronome, chapitre 17, verset 15, est annoncé par la bouche des prophètes. Notez 1 Samuel, chapitre 10, verset 1, et le chapitre 16, verset 1. Le seul droit du peuple était celui de l'installation, c'est-à-dire de la reconnaissance publique de son roi. 1 Samuel, chapitre 11, verset 15, et 2 Samuel, chapitre 2, verset 4, et ajoutez encore le chapitre 5, verset 1. Le roi n'était rien de plus qu'un prince sur l'héritage de Yahvé. 1 Samuel, chapitre 10, verset 1. Et par là, roi, par la seule grâce de Dieu, uniquement. Et comme l'office spirituel était plus près du roi céleste que l'office séculier, les prophètes en Israël, tout au long de son histoire, furent au-dessus des rois auxquels ils étaient donnés comme conseillers, comme conscience. C'était les yeux, les oreilles, les gardiens et les superviseurs. Même à l'intérieur de cette domination plus restreinte de Dieu sur son peuple, celui-ci tomba à nouveau. Il tomba du niveau, de niveau en niveau, il faut bien le dire, hein, comme un escalier. D'un pas en dessous de l'autre, et ceci en trois étapes régressives. Donc, après avoir connu un royaume qui avait été uni sous Saül, sous David et Salomon, en 1050 jusqu'en 950 avant Christ, il connut, après la division du royaume, en 975, ou environ 940, il connut jusqu'à la captivité babylonienne, en 722 avant Christ. Le royaume divisé également en Juda et en Israël. Ensuite, ce fut le seul royaume subsistant de Juda. Les deux tribus septentrionales, en 722 jusqu'en 586, or, avec Sédécias, son dernier roi, le royaume visible se brisa enfin complètement, laissant Israël dans son dernier état, à savoir sans domination divine. Selon le témoignage de l'Ancien Testament et comme conséquence du jugement de Dieu, le peuple fut errant, étranger et méprisé parmi les nations. C'était un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et, en plus, de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. Et c'est écrit dans Jérémie chapitre 24, verset 9, chapitre 25, verset 18, chapitre 26, verset 6, chapitre 29, verset 18, toujours de Jérémie, et chapitre 42, verset 18. Il y a donc beaucoup de citations bibliques, et c'est nécessaire pour ceux d'entre vous qui voudraient réécouter de temps à autre ces études et en noter quelques citations pour vérifier. C'est important de vérifier. Alors, Moïse, lui, il avait expressément annoncé « Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, rendra tes yeux languissants, ton âme souffrante. Et tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. C'est pas drôle du tout. Tout cela à cause de l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront. Deutéronome, chapitre 28, verset 65 et le verset 67. Yahvé lui-même confirma. Je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtillé avec violence. Tout cela à cause de la multitude de tes iniquités et du grand nombre de tes péchés. Jérémie, chapitre 30, versets 14 et 15. Sous le jugement et sous la légitime colère de Dieu, le peuple juif fut donc chargé d'opprobre et de honte. Jérémie 23, versets 39 et 40. Ce peuple est devenu un exemple d'effroi pour tous les peuples de la terre. Jérémie 24, verset 9. Et pourtant, oui, pourtant, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains, chapitre 11, verset 29. Les Juifs, devenus ennemis, sont encore, malgré tout, bien-aimés de Yahvé l'Éternel. Romains, chapitre 11, verset 28. La postérité est sainte. Romains 11, verset 16. Et à cause, tout cela à cause d'Abraham, qui était, rappelez-vous, l'ami de Dieu, selon Ésaïe, chapitre 41, verset 8, et Deutéronome, chapitre 7, verset 8, Dieu, à travers ses jugements, a tenu néanmoins fortement à ses promesses. Et cela en sorte que, alors même que les Israélites se trouvent dans le pays de leur ennemi, il ne les rejettera pas et il ne les abhorrera pas pour, par exemple, pour les exterminer ou pour briser son alliance avec eux. Pourquoi ? Parce qu'il est Yahvé, leur Dieu. Lévitique, chapitre 26, versets 44 et 45. Quatrièmement, nous avons la préservation d'Israël. Trois principales époques de détresse ont donné à Israël l'occasion d'expérimenter la protection du Dieu qui le préserve. Les déportations égyptiennes, assyro-babyloniennes et romaines. Premièrement, nous avons donc la détresse en Égypte autour de 1500 avant Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'appelle un opprobre de Christ, Hébreux, chapitre 11, verset 26. Inconsciemment, Pharaon, par sa manière d'agir, livrait la bataille du serpent contre la postérité de la femme. Genèse, chapitre 3, verset 15. Si Satan avait pu exterminer les Juifs, la venue du Messie aurait été rendue impossible. Depuis Abraham, la promesse relative à la postérité de la femme écrasant la tête du serpent était en effet définitivement lié à ce peuple. Selon Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, et noté Saint Jean, chapitre 4, verset 22, et encore Galates, chapitre 3, verset 16. Ainsi même, en dehors du développement juif, l'histoire du royaume est cachée derrière toute histoire d'État du peuple. Et c'est à cause du Messie qu'Israël a souffert en Égypte. L'expression « opprobre de Christ » employée par l'Épître aux Hébreux semble indiquer que Moïse avait peut-être quelques pressentiments de cet arrière-plan suprahistorique. Notez Deutéronome, chapitre 18, verset 15, et le chapitre 84, sauf erreur. Non, et le chapitre... Oui, je crois... Vérifiez, chapitre 84, verset 10. Je répète, Deutéronome, chapitre 18, verset 15, et soit le chapitre 84, ou le chapitre 34, je peux me tromper, verset 10. Dieu a plus forte raison et a main forte, on peut bien le dire, et avec son bras étendu. Dieu arrache ce peuple. Il arrache le peuple à cette fournaise de fer de l'Égypte. Là, vous pouvez noter Deutéronome, chapitre 4, verset 20, Exode, chapitre 6, verset 6, et Ézéchiel, chapitre 20, verset 5. Deuxièmement, la détresse assyro-babylonienne vers les années 722 avant Christ, cette détresse a été la disgrâce du péché. Deux Rois, chapitre 17, verset 7. La captivité est survenue à cause... Pourquoi ? Mais à cause de l'idolâtrie par laquelle Israël était devenu adultère. Osée, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3, et ajouté Ézéchiel, chapitre 16, verset 23. Donc, se chargeant, en quelque sorte, d'abomination. Ézéchiel 8, verset 13. Et en plus, remplissant le pays de violence. Ézéchiel, chapitre 8, verset 17. Ce en quoi il s'était rendu absolument inutile. Jérémie 13, verset 7. Qu'ils demeurèrent en captivité, et cela pendant 70 ans, cela correspond au nombre d'années sabbatiques qu'ils n'avaient pas respectées durant les siècles antérieurs. Deux Chroniques, chapitre 36, verset 21, et Lévitique, chapitre 26, verset 34 et 35. Mais en Babylone même, Dieu appela alors par exemple, Daniel. Daniel qui était en quelque sorte le Moïse de l'exil. Et ce Moïse de l'exil, c'est Ézéchiel. En Cyrus, ce puissant guerrier qui était fondateur de l'Empire perse, il leur donna le libérateur longtemps désiré. Je répète, donc en Babylone même, Dieu a appelé, entre autres, Daniel, et ensuite le Moïse de l'exil qui représentait Ézéchiel. Voilà, donc dire les choses correctement. Et en Cyrus, qui était un puissant guerrier, il était le fondateur de l'Empire perse. Donc Cyrus a pu leur donner, Dieu a pu donner par Cyrus le libérateur longtemps désiré. Voilà. Donc Cyrus a été l'instrument entre les mains de Dieu pour libérer ce peuple. Troisièmement, nous avons la détresse romaine qui fut et qui reste en quelque sorte la disgrâce méritée par le péché des péchés qui est, comme nous le savons tous, le rejet du Messie. Et c'est pourquoi elle est la plus longue et également la plus dure des punitions, en quelque sorte. Et vous avez Deutéronome, chapitre 28, versets 49 à 68. Car le rejet du Messie allait avoir des conséquences terribles. Et cette détresse commence avec la destruction de Jérusalem dans les années 70 après Christ, et, écoutez bien, et ne prendra fin, malheureusement, qu'avec l'établissement du royaume messianique, c'est-à-dire au retour du Christ. Prophétiquement, le dernier des quatre empires de Daniel doit donc durer jusqu'à la fin de l'âge, selon Daniel chapitre 2 verset 7. Que répondrait l'Israélite à qui l'on demanderait aujourd'hui pourquoi alors que les pères ne subirent que 70 années de captivité loin de leur patrie pour les crimes et pour les abominations dont ils avaient souillé la terre sainte, pendant des siècles? Oui, pourquoi et pour quel crime les fils ont été dispersés parmi les peuples, et cela depuis plus de, on peut dire, depuis plus de 18 siècles. Et Jérusalem a été foulée aux pieds par toutes les nations. Quelle est donc cette sanglante culpabilité qui éloigne ainsi Israël d'une vie paisible dans la terre de ses pères? Comme vous le savez, pour l'instant, ils n'ont pas une vie très paisible. Il faut avoir son fusil près de soi, même en dormant. C'est précisément son péché envers le Messie qui est, hélas, la racine de la misère actuelle d'Israël. La crucifixion, malgré toute sa gravité, ne constitue cependant pas la faute capitale d'Israël. Il fallait que le Christ fût mis à mort pour le pardon des péchés. De plus, Jésus, que le Père exauce toujours, selon Saint Jean chapitre 11, verset 42, eh bien, Jésus-Christ a demandé le pardon de ses bourreaux, dans Luc chapitre 23, verset 34. Et l'apôtre Pierre affirmera que ce fut d'ailleurs le fait de l'ignorance Actes chapitre 3 verset 17, ce qui constitue le péché aux conséquences incalculables, c'est que Israël a refusé, en tant que nation, ils ont refusé le message du Christ ressuscité en Palestine d'abord, et puis ensuite successivement dans les différents centres de la diaspora. Et ce, en dépit du témoignage probant rendu par la résurrection à sa divinité. Oui, le meurtre à la croix a fait de l'âme juive en quelque sorte l'épine de tourment, l'épine de tourment sans cesse sous la malédiction de sa révolte contre la croix. En fait, il est le fugitif sans foyer ni repos, car il n'en a jamais fini intérieurement avec la figure de Jésus-Christ qui le confronte. Mais ici même, à ce point précis, apparaît une des principales énigmes de l'histoire. En effet, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais cela nous mènera à des choses que négatives. Peut-être faut-il quand même les citer. La grande énigme est la survivance de ce peuple en dépit des nombreux jugements que Dieu a permis pour l'Israël incroyante, et cela à de nombreuses reprises. En août 70, il y a la destruction de Jérusalem. 1 100 000 Juifs ont été tués. Ensuite, en 132 jusqu'en 135, il y eut la défaite de Bar Kokhba, et là il y a eu 500 000 Juifs tués. De mai en juin 1096, il y a eu 12 000 Juifs massacrés en Rhénanie-Germanie. Le 1er novembre 1290, il y a l'expulsion de tous les Juifs et plus de 16 000 hors d'Angleterre sous peine de pendaison et la permission de revenir plus tard en 370, seulement après ce temps-là. Du 20 avril à l'automne 1298, il y a eu 100 000 Juifs tués en Franconie, en Bavière et en Autriche. En septembre 1306, expulsion de 100 000 Juifs hors de France sous peine de mort. Le 2 août 1492, il y a l'expulsion de 300 000 Juifs hors d'Espagne par l'Inquisition, toujours sous peine de mort. En novembre 1648, il y a l'assassinat de 12 000 Juifs par les Cosaques à Narol, en Pologne. En 1688 jusqu'en 1658, il y a la mort d'environ 400 000 Juifs dans la guerre russo-polono-suédoise. Et, pour terminer, en 1939 jusqu'en 1945, il y a le terrible meurtre de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est terrible. Les lois qui gouvernent l'existence de beaucoup d'autres peuples sont en partie explicables et explicables par la philosophie de l'histoire. Et le développement d'Israël, il échappe. En effet, il échappe à toute tentative d'explication. Il est donc le peuple de Dieu en dépit de tout. Et son Dieu est un Dieu qui se dérobe et qui se cache. Ésaïe 45, verset 15. Chaque juif est donc un mystère errant. Et cinquièmement, nous avons l'espérance d'Israël. Puisqu'il fallait que la souffrance et l'abandon viennent sceller la prétention de Jésus-Christ à être le vrai Messie, puisqu'il fallait qu'il souffrit ces choses, selon le témoignage des prophètes, Ésaïe 53 et Saint-Luc chapitre 24, versets 26 et 27, ce rejet ne saurait aucunement annuler ou anéantir le droit d'Israël à ce vrai Messie. Dieu honorera bien plus tôt ses promesses à Abraham et à David, comme Jacob a été changé en Israël, le buisson d'épines, Exode chapitre 3 verset 2, ce buisson d'épines deviendra un figuier fertile. Notez Osée chapitre 9 verset 10 et Ésaïe chapitre 55 verset 13. Israël maintenant, malédiction parmi les nations, deviendra à la fin abondante bénédiction. Zacharie chapitre 8 verset 13. Où le péché a abondé, la grâce surabondera. Romains 5 verset 20. Et de même que tout au long de l'histoire, toutes les races auront coopéré au jugement d'Israël, les Chamites en Égypte, les Sémites en Assyrie et en Babylonie, les Chaphétites dans l'exil général, ainsi seront-ils ou seront-elles bénis toutes ensemble en Israël, et cela au jour du royaume de gloire. Ésaïe chapitre 2 verset 2 à 4 et chapitre 19 verset 24 et 25. Et avec lui, sur la nouvelle terre, oui, le millénium. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Et c'est de lui, toujours par lui et pour lui, que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Selon Romains chapitre 11 versets 33 à 36. Et là, nous pouvons même dire amen. Chers amis, pourquoi Dieu donna-t-il la loi de Moïse? Quelle est la signification de la loi? Quelle est donc l'utilité de la loi? Notez Galates chapitre 3, verset 19. Oui, pourquoi le Christ n'est-il pas venu au temps d'Abraham, vers 1900 avant Christ? Le Nouveau Testament ne dit-il pas clairement que le salut dépend de la foi seule? Et la foi n'était-elle pas déjà pleinement présente en Abraham, Romains chapitre 4, sur les divers plans de la connaissance de Dieu, du caractère libre et gratuit de la grâce, de la justification, de la signification du sacrifice, de la résurrection et du Messie. Dans ce cas, cette période de 15 siècles que couvrit la loi n'était-elle pas un délai superflu, inutile, en fait une sorte de rétrogression? Et pourtant, oui, pourtant, c'est avec une solennelle majesté que Dieu a donné la loi, accompagnant cette révélation de tonnerre et d'éclair, d'un son de trompette et d'un tremblement de terre. Notez Exode chapitre 19, versets 16 à 18 ou 19, ainsi que Hébreux chapitre 12, versets 18 et 19. Et il souffrit que l'humanité languisse dans les ténèbres de la mort et dans une attente d'un millénaire, d'un millénaire et demi, pour la venue du Rédempteur. Isaïe, chapitre 9, versets 1 et 2, chapitre 60, versets 1 à 3, Saint Luc, chapitre 1, versets 78 et 79. Il doit donc y avoir à cela de sérieuses raisons. Et quelles sont-elles donc, ces raisons? La réponse de l'Écriture sainte réside dans la signification de la loi, qui est principalement une accentuation de l'attente du Rédempteur, comme le fruit de la révélation du péché de l'homme. La loi est ainsi le tuteur qui conduit au Christ. C'est le sauveur des pécheurs. Galates chapitre 3, verset 19 et le verset 24. Et ajoutez Romains chapitre 3, verset 20 et le chapitre 7, verset 7. Et tout cela afin de remplir cette tâche spécifique. La loi occupe donc une place particulière qui est en relation avec le passé, qui représente le futur et le présent. Elle est à la fois addition, insertion et une instruction. Donc, nous avons premièrement la loi en tant qu'addition. La loi n'a en aucun sens pris la place de l'alliance avec Abraham, mais elle l'a complétée et elle s'est placée à ses côtés. Elle a été ajoutée, selon Galates chapitre 3, verset 19, et Romains chapitre 5, verset 20. Survenue 430 années plus tard, elle ne pouvait annuler une disposition confirmée longtemps auparavant. Galates chapitre 3, verset 15. Oui, verset 15 jusqu'au verset 17. Et c'est pour cela que malgré toute sa signification, la loi de Moïse ne peut acquérir un sens réellement fondamental. Pour l'histoire d'Israël, seules sont donc fondamentales quoi? Les promesses de l'Alliance. Et c'est pourquoi saint Paul, dans sa doctrine de la justification, il remonte non pas à Moïse, mais il remonte à Abraham. Notez Romains chapitre 4 et Galates chapitre 3, verset 9 et le verset 14. De même que l'épître aux Hébreux trouve dans la période de la loi, trouve là toute une série de héros de la foi, Hébreux chapitre 11. Cette addition était néanmoins nécessaire, et malgré toute la grandeur et toute la profondeur de l'alliance abrahamique, l'accent n'y était pas mis. Elle n'était pas mise avec assez de force sur le péché, car là était sa principale imperfection, la condition de l'homme perdu et son incapacité à se racheter par ses propres moyens n'y était pas soulignée avec l'importance voulue. Or, percevoir et réaliser tout cela est sans aucun doute la plus importante des expériences requises en vue d'une connaissance expérimentale de Golgotha. Il fallait donc que cette prise de conscience soit complétée. Telle était donc la fonction de la loi. Dès lors, l'entière révélation pré-chrétienne du salut se divise en deux sections principales, l'alliance de la promesse et l'alliance de la loi. Ce qui est positif vient à l'avant-plan dans la première, tandis que dans la seconde, c'est ce qui est négatif qui se détache en premier plan. Avec Abraham, c'est la bénédiction, Galates chapitre 3, versets 8 et 9. Avec Moïse, c'est la malédiction, Galates chapitre 3, verset 10. Avec Abraham, c'est la vie, Romains 4, verset 17 à 25, et Hébreux 11, verset 19. Avec Moïse, c'est la mort. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, et Romains, chapitre 7, verset 9 à 10. L'alliance mosaïque a atteint son point culminant dans la crucifixion, Galates 2, verset 19 et 20, l'alliance abrahamique dans la résurrection, Hébreux 11, verset 19. Les deux s'appartiennent cependant. Le pécheur doit être racheté et dans ce but, le renouvellement et la nouvelle naissance sont absolument nécessaires. La nouvelle naissance a pour corollaire, on peut dire absolument indispensable et pour ainsi dire simultané, a donc comme naissance la conversion de l'homme, très important. Et celle-ci a un double aspect. C'est à la fois de se détourner du péché et de se tourner vers le salut. C'est un non à soi-même et c'est un oui à Dieu. Et ces deux aspects, le Nouveau Testament les nomme repentance et foi. Ici seulement nous apparaît la véritable signification des histoires de l'Ancien Testament. Tout au long des siècles, Dieu a prononcé le mot foi dans l'histoire du salut. Et ce mot et la signification de l'alliance avec Abraham, et plus de 2 millénaires ont été nécessaires à cette éducation dans la foi. Tout au long des siècles, Dieu a prononcé le mot « repentance » dans l'histoire du salut. Et c'est là la signification de la loi de Moïse. 1500 années se sont écoulées comme éducation dans la repentance. Repentez-vous et croyez à l'Évangile, nous est-il dit dans Saint Marc, chapitre 1, verset 15. Et par cette affirmation, le Christ a joint les deux dans une unité rédemptrice. C'est donc là la portée néo-testamentaire de l'Ancien Testament. Deuxièmement, nous avons la loi en tant qu'insertion. La loi, elle a été ajoutée jusqu'à ce que vienne la postérité à laquelle se réfère la promesse. Galates 3, verset 19. Et ceci jusqu'à ce que soit montré que la loi, dans sa forme mosaïque, est temporaire et transitoire, et qu'elle n'est en relation avec la postérité que dans une simple relation préparatoire en la postérité qui est son but. C'est pour cela que même au temps de l'alliance, de l'ancienne alliance, Jérémie pouvait déjà parler de la nouvelle alliance à venir dans Jérémie 31, versets 31 à 34. David savait déjà que celui-ci, son Seigneur, psaume 110, verset 1, serait en même temps son fils, Saint Matthieu 22, versets 41 à 45. L'Ancien Testament, à travers le psalmiste, affirmait donc déjà, en la personne du Messie, un transfert du sacerdoce de la tribu de Lévi à celle de Juda et, en même temps, un changement de sacerdoce en général, Hébreux 7, versets 11 à 17. Et comme de plus, le sacerdoce est le fondement de tout le système de la loi et que celui-ci forme une unité indivisible. Notez Jacques, chapitre 2, verset 10. Le changement de sacrificature, il entraîne nécessairement un changement de loi. Hébreux 7, verset 12. Et c'est pourquoi l'Ancien Testament, par la bouche de David le chantre, aussi bien que par celle de Jérémie le prophète, affirmait déjà que la loi est une insertion temporaire, tant il est vrai que telle est en effet son optique. Et troisièmement, nous avons, en tant qu'instruction, nous avons la loi. Nous avons la loi en tant qu'instruction. Car dans le cadre de sa propre période, la loi est à la fois une clôture, une bride, une règle, une barrière et un miroir. Dans son aspect extérieur, la loi est une clôture qui sépare Israël des nations du monde. Éphésiens chapitre 2, versets 14 et 15. Elle fut donnée à Israël seul et non pas à tout homme. Il, Dieu, fait connaître sa sainte parole à Jacob. Il fait connaître ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, pas du tout. Entre Israël et lui, l'Éternel a donné pour signe le sabbat. Quant aux nations, elles sont sans loi. Romains 2, verset 14. Cela seul réfute déjà tout effort d'introduire la loi dans l'évangile de grâce offert aux nations. La loi mosaïque, avec ses prescriptions sacerdotales, avec sa célébration judaïque du sabbat, avec ses formes typiques d'adoration, avec ses détails vestimentaires et son encens, etc., ne fut jamais donnée aux nations païennes ou chrétiennes, mais a été donnée uniquement à Israël seul. Cependant, Israël et sa loi, elle a été donnée pour être une leçon de choses présentées en un style grandiose sur la scène de l'histoire du monde. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Donc, on peut dire absolument lisible, et cela pour tous les peuples et de tous les siècles. La loi est donc la bride avec laquelle Yahvé d'en haut dirige et gouverne son peuple Israël. C'est la règle d'une conduite droite. C'est la barrière qui, en bas, dans notre cadre immédiat, doit freiner le développement du péché. Galates chapitre 2, verset 15, et ajouter la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 3. Du dedans, c'est-à-dire de par son caractère interne, c'est aussi un miroir. Notez Jacques, chapitre 1, versets 23 et 25. C'est par la loi que est venue la connaissance du péché, Romains 3, verset 20. Et c'est là son objet et sa tâche essentielle. D'où l'accent tout spécial qui a été mis sur la sainteté du Seigneur. En sa qualité de Dieu saint, il est le Dieu exalté, inapprochable, il est le Dieu jaloux, parfait et céleste, qualité fondamentale de sa sainteté mise en relief par l'Ancien Testament. Je pense que nous pourrons peut-être tout juste finir cette étude. Premièrement, nous avons la sainteté de Dieu manifestée par sa majesté dans l'âge patriarcal surtout. Deuxièmement et troisièmement, nous avons la sainteté de Dieu manifestée dans son inaccessibilité et dans sa jalousie, spécialement dans l'âge mosaïque. Exode 19, verset 12 à 13. Ainsi que Exode chapitre 20 verset 5 et ajouter Josué chapitre 24 verset 19. Quatrièmement, nous avons la sainteté de Dieu qui est mise en relief par sa perfection éthique et morale, et cela en particulier dans les écrits des prophètes. Ésaïe contient en tout 29 fois l'expression le Saint d'Israël. Notez le chapitre 6, verset 3. Cinquièmement, nous avons la sainteté de Dieu qui est rendue évidente par son caractère céleste, surtout depuis la captivité à Babylone. Dieu des cieux, notez Néhémie, chapitre 2, verset 20. Le Nouveau Testament, enfin, qui est la couronne, on peut dire, le Nouveau Testament va donc couronner toute cette mise en lumière. Et sixièmement, nous avons la sainteté de Dieu en ce qu'il révèle en Christ son amour. Saint Jean 17, verset 6 et le verset 25 et 26. Avant de terminer, disons qu'il y a ainsi dans l'histoire du salut une révélation historique, continue et progressive de la sainteté de Dieu dans des aspects sans cesse nouveaux. Mais par ce travail au-dedans, la loi montre les choses par avance, éveillant chez le pécheur le besoin d'une rédemption. Romains 7, verset 24. Et par là, elle devient donc un pédagogue pour nous conduire à Christ. Galates chapitre 3, verset 24. La loi est ainsi, chers amis, un don du Dieu rédempteur, tandis que sous le rapport de la sanctification individuelle, la grâce exclut la loi mosaïque et elle l'inclut pourtant dans le développement général du salut. Chers amis, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ces études. À demain matin, 6h sonnante, pour la suite de cette série. Nous n'avons plus le temps de terminer par la prière. Que le Seigneur vous bénisse, c'est mon désir. Et si je vous dis que je vous aime, c'est rien à côté de ce que Jésus-Christ vous aime. Il vous aime tellement qu'il vous a tendu la main à tous, pouvant l'accepter pour être sauvé pour l'éternité. Amen. À demain matin. Au revoir.